Europe 1, en balade avec Bartabas. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Bartabas que nous partons en balade aujourd'hui, écuyer d'exception, chorégraphe, metteur en scène, cinéaste. Bartabas est l'un des rares artistes qui a inventé son art, le théâtre équestre. Aujourd'hui, il publie son premier livre chez Gallimard, D'un cheval l'autre. Il nous a donné rendez-vous chez lui, au théâtre Zingaro, au fort d'Aubervilliers.
Frédéric Taddeï, en balade avec Bartabas sur Europe 1.
Qu'est-ce qui se passe?
Bonjour, Bartabas.
Bonjour.
Voilà, dans le théâtre Zingaro et même dans la caravane du maître.
Voilà, tu as pénétré sur le terrain que j'appelle le village d'Astérix. C'est là où on vit tous en communauté. Enfin, la communauté Zingaro, la tribu vit avec ses chevaux. Et là, c'est ma caravane. Ça va faire 35 ans que j'habite en caravane et plus de 20 ans dans celle-là, qui est une Assomption, comme tu as pu le voir dehors. On appelle ça une Assomption, c'est une marque de Rennes. Les années 50, ce qu'il y avait à l'époque, c'était la mode, ils imitaient les formes des Cadillacs américaines, donc ils ont mis des ailerons comme ça.
Mais c'était quoi? C'était les directeurs de cirque qui s'achetaient ça?
Un peu tout le monde. Il y avait Luis Mariano, avait une caravane pour ses tournées, il paraît qu'il y avait une piscine dedans, même, elle ne devait pas être très grande.
Mais... Et la vôtre, alors, c'était alors, à qui avant, vous savez?
Ah, je ne sais pas, non, parce qu'on a un peu tout refait. Hein. En fait, il n'y a d'origine que la chambre, là, qui est avec les marqueteries.
La chambre, c'est tout au bout, voilà. Avec un grand lit double.
Un grand lit double, des placards. Et puis après, j'ai tout réaménagé.
On est dans la salle de bain là.
Voilà, qui est indispensable parce que quand on a mal au dos, il faut prendre un bain chaud tous les matins en se levant.
Ah, donc il y a l'eau chaude.
Ah bah oui, quand même, il y a l'eau chaude, le chauffage.
Parfois, on s'imagine quelqu'un vivant dans une caravane, surtout Bartabas, on se dit il doit se laver à l'eau froide.
Non, ça arrive que les tuyaux gèlent en hiver, qu'effectivement, il y ait non seulement pas d'eau chaude, mais plus d'eau du tout même.
Oui, évidemment.
Donc là, c'est plus dur. Mais voilà, non, c'est comme un cocon. Moi, j'ai pris l'habitude de vivre ici. Enfin, pour moi, c'est assez important. C'est même une philosophie de vie un peu. C'est-à-dire, quand tu vis en caravane, ça impose des choses. Tu peux pas posséder trop de choses, par exemple. Alors, quand on fait des cadeaux, je dis toujours, si vous m'offrez des tableaux, trucs, des petites formes, des petits objets.
Là, parce que une petite icône.
Voilà. Bien que là, j'ai un peu triché. Tu verras tout à l'heure dans mon bureau, j'accumule quand même les choses parce que tout tient pas dans cette caravane.
Beaucoup de casquettes.
Bah oui, ça c'est.
La casquette est inséparable des rouflaquettes de Bartabas.
Exactement.
On peut pas imaginer l'un sans l'autre. Là, on est dans
surtout qu'en ce moment, j'ai plus trop de cheveux maintenant. Donc, si tu veux, la casquette devient indispensable. Oui, donc là, c'est la cuisine. On va couper le petit chauffage qui fait un peu de bruit.
Tout est peut-être. En bois, hein, à l'ancienne.
Tout est en bois et en forme arrondie. J'aime bien les formes arrondies. Voilà, donc, tu peux t'asseoir parce que dans une caravane, il faut toujours s'asseoir.
Ça paraît plus
et
grand.
De ce côté-là, tu seras mieux. Tu auras vu sur le. C'est une place stratégique. Tu as vu sur le théâtre et. Comme oui, ça, oui, tu peux voir tous les visiteurs qui arrivent.
Et alors, on dit qu'au fond, les gens qui habitent dans les caravanes sont les gens qui détestent le voyage.
Non, ce qui est vrai, c'est que moi, par exemple, ce qui m'arrive assez rarement quand je dois partir en voyage, c'est-à-dire pour les vacances, on va dire, ce qui est très rare. Donc, il faut faire une valise, il faut choisir ce qu'on doit emporter, c'est la panique. Quoi. Alors que, parce qu'une caravane, c'est anti-voyageur dans la mesure où tu emmènes toutes tes affaires avec toi. Quoi.
Oui, en fait, on se déplace, mais on est toujours chez soi.
Exactement comme un escargot, tu te déplaces avec ta coquille. La seule chose qui change, c'est le jardin quand tu ouvres la porte. Quoi. Mais donc, ça, c'est assez intéressant parce que tu vis beaucoup dehors. Moi, je vis beaucoup dehors. Enfin, c'est pour ça, c'est un peu notre principe. Hein. Quand tu travailles avec des chevaux, tu vis quand même en extérieur.
Et alors, des chevaux en plus.
Et à l'horaire des chevaux, donc voilà, la caravane c'est plus un endroit de plus convivial ou pour dormir ou voilà, tu vis pas vraiment dans ta caravane en fait.
Mais quand le théâtre Zingaro se rend à New York, à Los Angeles, à Moscou, à Hong Kong, la caravane reste ici?
Oui, alors quand les très grands voyages, c'est-à-dire à partir du moment où les chevaux voyagent en avion, c'est-à-dire qu'on a dépassé un certain kilométrage, au-dessus de 2000 km, on va dire. Les chevaux voyagent en avion, donc pour aller en Asie, pour aller aux États-Unis, effectivement. Là, évidemment, on n'emmène pas nos caravanes, et donc là, on habite à l'hôtel, ce qui est assez dépaysant pour nous, quoi.
Ouais, c'est un plaisir ou c'est déplaisant, l'hôtel?
Bah, ça dépend. Si c'est bien choisi à New York, par exemple, on était à Battery Park, et l'hôtel était vraiment en face par la fenêtre, on voyait le chapiteau, quoi. Donc ça, c'est assez plaisant, parce que tu peux toujours observer, nous, on a besoin d'être plusieurs fois par jour, quoi, de faire des allers-retours. Voilà, c'est
toujours
pas le boulot.
Proximité. Des chevaux, comme les violonistes, veulent rester à côté de leur Stradivarius.
Voilà, ou comme les paysans vivaient à côté de leurs animaux, hein, parce que s'il y a un problème jour et nuit... Vous savez, un cheval, c'est comme un enfant, hein, faut pouvoir le surveiller 24 heures sur 24, pratiquement.
On les entend d'ici, hennir
rarement, parce qu'ils sont tranquilles, mais par exemple, la nuit, on peut les entendre, s'il y a un cheval qui n'est pas très bien, qui commence à cogner, à frapper un peu le box, on l'entend, oui, bien sûr. Et donc, évidemment, on se lève et on va voir ce qui se passe.
Il y a des statuettes de chevaux, là, j'en vois, en bois.
Oui, ça c'est un cadeau du professeur Gignot qui est décédé maintenant. C'est les points d'acupuncture des chevaux. C'est lui qui a un peu redécouvert les points d'acupuncture des chevaux qui étaient d'époque des Chinois. Et donc ça, ce sont deux petites formes chinoises qui décrivent l'intérieur et les points d'acupuncture.
Quand on veut t'offrir un cadeau à Bartabas, j'imagine que à chaque fois c'est un cheval, quoi, non?
Oui, je commence à avoir l'habitude, oui. Pas forcément, mais souvent, oui, c'est un rapport avec le cheval. Et je demande souvent des petits objets, quoi.
Et le chamanisme aussi, non?
Oui, un petit peu. De toute façon, les objets, pour moi, n'ont de valeur que justement par rapport aux gestes, quoi. J'ai pas des objets de grande valeur, même par rapport quand ce sont des tableaux. Je sais, ils ont plutôt chacun une histoire, quoi. Soit par la personne qui vous l'a donné, soit l'histoire de l'objet lui-même, quoi.
Frédéric Taddeï se balade avec Bartabas sur Europe 1.
On est ici dans les douves du fort d'Aubervilliers, un fort qui avait été construit au milieu du 19e siècle pour défendre Paris contre l'envahisseur. Résultat, il a été occupé par les Prussiens d'abord, en 18, après la défaite de 70. Il paraît que Irène et Frédéric Joliot-Curie faisaient des expériences sur la radioactivité.
Exactement.
À l'intérieur de ce fort.
L'anecdote, c'est que le premier jour où on est arrivé ici, il y a 30 ans, on a ouvert l'IB, il y avait une double page là-dessus, sur le fort irradié par les... C'est pour ça qu'on est en super forme d'ailleurs, c'est qu'on doit sûrement bénéficier des radiations.
C'était
quoi.
Dans le fort, hein. C'était voilà, pas à l'extérieur.
Ça nous donne une pêche d'enfer.
Ils ont eu le prix Nobel d'ailleurs en 1935, un peu après leurs expériences, mais ils en sont morts tous les deux à 58 ans. Hein. C'est sûr que c'était pas recommandé. Jamais eu d'effet ici.
Non, a priori, non. Je veux dire, on est en super forme.
Les chevaux aussi.
Oui.
Les chevaux vont bien. Quand on parle de doper les chevaux dans le milieu des courses, qu'est-ce qu'on leur fait? Je me suis toujours demandé. Vous avez dû vous poser la question. Vous avez des chevaux tellement exceptionnels.
C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que même il y a tellement d'argent en jeu dans le milieu des courses et du sport, comme dans le sport humain d'ailleurs. Ouais. Hein, c'est exactement la même chose que pour les humains. Qu'effectivement, je pense que la pointe en recherche vétérinaire doit certainement être là-dedans, donc il doit certainement y en avoir des côtés positifs. On doit découvrir des nouveaux remèdes grâce au doping, je pense. Un peu comme chez les humains, hein.
Et les chevaux de Bartabas, en général, ils ont l'air d'être drogués de naissance.
Oui, bah disons que de toute façon on n'a pas de contrôle anti-doping nous déjà, donc voilà. Et puis les chevaux de notre spectacle, ça n'a rien à voir. Ils ne sont pas poussés à bout physiquement comme le sport. Ils travaillent, on peut dire, à 50 ou 60% de leurs possibilités physiques, un peu comme nous, hein.
Mais ils font des trucs tellement extraordinaires. Par moment, on se demande où est-ce que vous êtes allé les chercher, ces trucs-là.
Moi, je dis souvent, c'est les chevaux. Hein. On revient toujours au cheval. À chaque création, c'est le cheval qui est le matériel sur lequel s'appuie la création. Donc, il faut surtout savoir les observer, comprendre ce qu'ils veulent dire, ce en quoi ils nous inspirent. C'est mon grand principe de travail, c'est vraiment être à l'écoute du cheval. C'est le cheval qui m'indique où aller, en fait. C'est pas le contraire. Je n'achète pas un cheval avec une idée préconçue d'un truc à faire. Il faut absolument arriver à le faire. Donc, c'est les chevaux qui me guident, comme ça, au fur et à mesure.
Et parfois, ça met très longtemps avant de découvrir ce qu'un cheval savait faire, mais que vous ne saviez pas qu'il savait faire.
Non, c'est pas à ce niveau-là. C'est plutôt au niveau dans quelle direction de travail on va l'amener pour faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire, c'est lui qui va nous dire, en fonction de son caractère, de sa manière de se mouvoir, de son physique aussi, en quoi il nous inspire, ce qu'il nous inspire, est-ce qu'il va nous inspirer plus par sa force, sa puissance, sa rapidité, sa légèreté. Et ça, ça va nous amener vers des disciplines déjà. Et ensuite, dans le travail lui-même, c'est lui qui va nous guider, quoi, pour peaufiner les mouvements au fur et à mesure du travail, quoi. C'est construire un vocabulaire, hein. Dresser un cheval, je dis toujours, c'est vraiment construire d'abord un vocabulaire avec l'animal, ensuite une grammaire, et ensuite dire des poèmes ensemble, quoi. Mais voilà, c'est des poèmes qui sont faits de silence, qui sont faits d'écoute, qui sont faits de soupirs même, voilà. Donc c'est quelque chose d'assez particulier.
On se retrouve dans un instant avec Bartabas.
Frédéric Taddeï en balade avec Bartabas sur Europe 1.
Nous sommes ressortis de la caravane de Bartabas. On est au milieu du village.
Le village que vous avez créé ici, ça date de quand, 1989?
Il y a 30 ans à peu près, ouais. Il y a 30 ans. Vous on s'est installé comme des sauvages avec...
À Aubervilliers.
Avec un projet de théâtre démontable et ça fait 30 ans qu'on est là.
Et il n'est jamais démonté.
Jamais démonté.
Il est tout en bois, hein. Tout est en bois ici.
Oui, tout est... Bah, j'adore le bois, je trouve que c'est...
C'est quoi comme bois?
C'est un matériau noble. Oh, il y a de tout, c'est du bois assez simple, c'est des essences assez simples, hein. De sapin, de raie de cédar. C'est du bois qui vieillit naturellement, qui est un peu imputrescible, donc il vit... Il change de couleur, il vit quoi. Et ça, c'est ça que j'aime bien. Je trouve que ça va bien avec. Alors là, on rentre dans un endroit qui est assez particulier, que très peu de gens ont vu.
Ah.
Donc on passe par un espèce de corridor qui sert de buanderie, voilà, pour mon fils.
Et on pourrait croire à un hammam.
Voilà. Et là, on rentre dans ce que j'appelle, c'est mon bureau. C'est un peu mon endroit pour écrire, entre autres. C'est mon endroit pour.
Pour travailler ?
Pour travailler, si on veut, oui.
C'est bien chauffé.
Voilà, donc c'est bourré. Alors là, encore, il y a même des parties que j'ai démontées de mon ancienne caravane. Il y avait un mur de photos. Là. Vous voyez, j'ai carrément découpé à la tronçonneuse pour recoller sur le mur.
Ouais.
Et puis c'est bourré d'objets. Enfin, voilà, c'est tout ce que... Là, c'est un peu entassé n'importe comment parce qu'en plus, je suis en train
de... Il y a à la fois des morceaux de squelettes, des statuettes africaines... des bijoux asiatiques. Il y a beaucoup de coupes, comme si vous faisiez...
Oui, ça, c'est les restes de chevaux de course.
Ouais.
J'ai passé des courses, parce que j'ai commencé très gamin dans les chevaux de course.
Ah oui, vraiment ?
Voilà.
Ah, à un moment, vous étiez dans les chevaux de course.
Oui, ça a été ma première approche des chevaux, d'ailleurs. Ça a été le milieu du sport, des courses.
Ouais.
Puis je me suis vite rendu compte que, un, j'allais devenir trop grand pour être jockey, et puis qu'en plus, pour faire entraîneur, ce que je voulais faire, il fallait plus entraîner le propriétaire que le cheval. Donc je me suis dit, c'était pas un truc pour moi.
Mais c'est drôle.
Mais ça m'a appris beaucoup de choses.
Parce que moi, j'ai pas du tout d'aller dans le milieu du cheval, parce que le milieu du cheval est très particulier.
Non, j'ai horreur du milieu du cheval, de toute façon, des milieux en général, hein, que ce soit le cinéma, que ce soit le théâtre. Mais par contre, je pense que chaque discipline équestre apprend beaucoup de choses. À un certain niveau de professionnalisme, c'est toujours intéressant et c'est très enrichissant. Quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui tue un peu tous les gens qui travaillent autour des chevaux, c'est qu'il y a souvent des œillères. Les gens des courses ne parlent pas aux gens du dressage, qui ne parlent pas aux gens de, j'en sais rien, de l'éthologie. Alors que tout est intéressant. Je pense que tout est une expérience. Alors après, il y a des, comme dans tout, hein, il y a des abus, il y a des bons et des mauvais. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et en plus, j'ai une grande tendresse pour le milieu des courses, parce que, parce que ce que j'appelle le milieu du matin, je trouvais ça très beau. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'aperçois que le cheval appartient à celui qui le monte le matin, pas au propriétaire qui va être sur le champ de course l'après-midi. Quoi. C'est celui qui en a la charge, l'occupation quotidienne. Et c'est vrai que c'est un milieu qui vient un peu en vase clos, que je trouve très... Enfin, en tout cas, à l'époque, je trouvais d'une grande poésie. Ça disparaît un petit peu, mais...
Votre père était architecte, votre mère était médecin, vous habitiez à Courbevoie. Comment vous avez rencontré les chevaux ?
Fameuse région de chevaux, comme chacun sait, Courbevoie.
Courbevoie, je l'ai dit, pour ceux qui n'y habitent pas, c'est là où est la défense.
Exactement, voilà. Donc, je sais pas, il faudrait demander à un psychanalyste, parce que si j'interrogeais mes parents, c'était dès l'âge de 2-3 ans, dès que je voyais un cheval au bord de la route, j'étais fasciné, il fallait s'arrêter. Donc, j'ai pas vraiment un jour précis, une raison précise. La seule chose que je peux dire en fouillant un peu là-dedans, c'est que la première rencontre avec les chevaux, en tout cas la première pour que je vraiment côtoie un cheval, c'est-à-dire que je grimpe dessus, il a fallu assumer cette fascination. La fascination de l'animal pour moi, enfant de 5-6 ans, c'était ce qu'est la définition de la fascination, c'est-à-dire c'est un mélange d'admiration et de peur. Voilà, donc il a fallu vaincre cette peur, parce que c'est pas vrai que même si on s'appelle Bartabas, à 5 ans on claque pas des doigts et le cheval comme ça, non, il faut, t'es face à un animal qui pèse 600 kilos, tu sais pas comment il fonctionne, tu sais pas ce qu'il pense, il faut oser s'en approcher. Je dis souvent que c'est, je pense, la première leçon, il y en a eu beaucoup depuis, après, c'est la première leçon qu'on m'a appris les chevaux, c'est ne pas avoir peur de l'autre, ne pas avoir peur de l'inconnu, quoi. Et ça, je pense que c'est des choses importantes pour les temps qui courent.
Horses in my dreams, like waves, like the sea.
Europe 1, en balade avec Bartabas, Frédéric Taddeï.
C'est donc dans cette pièce que naissent les spectacles. Face à ces photos d'Albert Einstein et de John Ford, le borgne d'Hollywood.
Stravinsky, John Ford, enfin, ça part dans tous les sens. Quoi.
Ouais, mais vous êtes surveillé par des grands artistes.
Voilà, enfin, etc. Oui, oui. Mais oui, je dirais oui et non, parce que mes spectacles partent jamais d'une feuille blanche. Hein. Ils partent vraiment d'un travail de la matière, quoi, du travail avec les gens et les chevaux. Quoi. L'idée de départ, comme ça, elle est presque un prétexte qui va être le thème d'un spectacle. Mais le contenu, il est vraiment le fruit du travail quotidien. Et il représente là où on en est dans notre relation avec le cheval à ce moment précis. Parce que comme j'ai pas de répertoire, on peut pas revenir en arrière. Donc on avance dans une réflexion, dans un travail avec les chevaux.
Mais j'ai toujours l'impression que vous aviez des visions avec les chevaux, que c'était ça, oui, le point de départ. Tout à coup, vous voyez un cheval et vous avez une vision de ce que vous pourriez faire avec lui.
Oui, enfin, mais ça, c'est très concret. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je suis en pleine période de répétition, je fais des micro-siestes. Moi, j'ai la chance, il paraît que Napoléon faisait pareil, donc pourquoi pas. C'est que j'arrive à me reposer si je peux dormir 10 minutes. Quoi. C'est pour ça que je suis assez insomniaque, mais je peux me reposer en très peu de temps. Mais ça, c'est un truc que j'ai vraiment expérimenté. Quand je suis face à un problème de répétition, quelque chose qui ne va pas, on n'arrive pas à trouver la solution, je vais faire une petite sieste de 10 minutes et très souvent, quand je me réveille, j'ai la solution. Quoi. C'est-à-dire que pendant que je dormais, là, l'esprit est parti, il y a eu une vision. Il y a eu ça, c'est pas du tout magique, c'est quelque chose de très, pour moi, très concret. Quoi.
On disait d'El Cordobés, je crois que c'est El Cordobés lui-même qui disait « je fais des trucs avec les taureaux », parce qu'à l'époque, on lui reprochait d'être un torero totalement hétérodoxe. Et j'ai l'impression que vous faites des trucs avec les chevaux aussi. Ça n'a pas de nom.
Oui, bah, c'est-à-dire que moi, je dis souvent « je suis fait des chevaux que j'ai rencontrés hein. ». C'est-à-dire pour ça que j'ai écrit ce livre. Hein. C'est-à-dire que c'était une manière...
D'un cheval l'autre, qui vient de paraître chez Gallimard.
Exactement, c'était une façon pour moi de faire renaître tous ces chevaux, mais pas de manière, j'allais dire, spectaculaire au sens raconter ma vie, mon œuvre. Vraiment de ce qu'ils m'ont laissé intérieurement, physiquement, comment ils m'ont construit physiquement. Quoi. Et ça, c'est quelque chose de... Alors après, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, j'ai certainement écrit ce livre aussi, c'est une manière de leur dire adieu. Quoi. C'est-à-dire tous les chevaux qui ne sont plus là maintenant, en 35 ans, il y en a eu quand même pas mal qui sont passés. C'était vraiment un exercice très particulier, parce qu'il s'agissait d'évoquer vraiment le corps à corps avec le cheval. J'ai essayé d'être le plus... vraiment de décrire ça à l'os, quoi, à la vertèbre près. Qu'est-ce que j'ai ressenti sur tel cheval? Qu'est-ce qu'il m'a laissé comme sentiment, ce cheval-là, mais comme sentiment d'abord physique et ensuite d'une réflexion. Alors après, j'ai raconté leur rencontre, etc. Mais
là, ce qui est frappant, justement, pour le lecteur, c'est que ce sont des histoires de couple. Vous avez formé des couples avec les chevaux et c'est un couple à chaque fois. Hein, et quand c'est fini, quand le cheval meurt, il est impossible de reformer le même couple avec un autre cheval.
Bah, il faut surtout
comme
pas.
Comme dans la vie, quoi. Comme
exactement,
dans les
exactement. Quand vous vivez pendant 15 ans ou 20 ans avec une femme, vous n'avez pas. Le jour où ça se termine, vous n'allez pas chercher à reproduire. Enfin, j'espère pour vous, parce que sinon. Voilà, donc il ne faut surtout pas essayer de retrouver la même. Mais j'ai mis longtemps à comprendre ça, hein, parce qu'au début, je me disais, allez hop, j'ai essayé de me consoler, c'est pas grave, on va retrouver un autre. Mais en fait, voilà, il faut recommencer une histoire à zéro. Et en plus, le métier ne sert pas à grand-chose. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'avec l'âge, évidemment, tu acquiers plus de métiers, d'observation, de réflexe, de trouver des pseudos solution. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir l'humilité de recommencer une histoire à zéro avec un autre cheval. Quoi. C'est-à-dire de dire, on oublie ce qu'il y avait avant et on refait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu perds un cheval, c'est pas juste, évidemment, c'est sentimentalement difficile. Mais enfin, ça, j'allais dire, c'est la vie. C'est la vie, c'est la mort. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais tu perds vraiment quelque chose, ton mode d'expression. Tu perds quelque chose de toi-même que tu montrais au public. C'est comme si tu perdais un bras ou une main. Bah, tu continues à être le même, mais il te manque un bras et une main. Donc, il faut continuer à vivre, il faut continuer à faire ton métier, mais sans cette main et sans ce bras. Donc, il te manque quelque chose, mais... Et à chaque fois, c'est un petit peu ça qui se passe. Quoi. C'est-à-dire que tu perds ce qui te permettait de t'exprimer et d'exister. Parce qu'évidemment, moi, je pratique j'aime pas dire un art, un artisanat. Moi, je me considère vraiment comme un artisan. C'est tous les jours, remettre sur le tapis son travail et voilà, en direct avec le public. Ça, y a pas de, on peut pas être un poète maudit quand on est dans le spectacle vivant. Hein, quoi. Donc, on n'a pas le côté de l'œuvre qui a été créée. Quoi. C'est-à-dire que quand on écrit un livre, quand on fait un film, on peut toujours dire, d'ailleurs, une fois qu'il est fini, voilà, il est fini. C'est pour ça que je dis, c'est quelque part une manière, quand j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte que je m'étais libéré de quelque chose. Après, c'était pour leur dire adieu. Je pense d'ailleurs que toute personne qui écrit ou qui fait une œuvre, ce que j'appelle une œuvre morte, c'est-à-dire un tableau, un livre, un film, c'est pour dire adieu à quelque chose. Si un peintre peint un paysage, quelque part, c'est pour dire adieu à ce paysage ou en tout cas à l'émotion qu'il a ressentie devant ce paysage. Le plus juste de tout, c'est Soulages. Qui a trouvé la solution quand même.
Il n'y a plus de paysage.
Non, mais il signe ses tableaux par le jour et l'heure où il les a terminés. C'est une façon de dire que c'est à ce moment-là, ce jour-là, qu'il a ressenti ça, même si c'est le fruit d'un long travail pour chaque tableau. Mais et c'est quelque chose qui se termine. Après, il existera ou pas face à la rencontre avec un public ou des gens qui observeront ce tableau. Mais pour lui, ça y est, il l'a donné, elle n'est plus là. Et, et ça, c'est un sentiment qui est très particulier et qu'on ne connaît pas du tout dans le spectacle vivant. Dans le spectacle vivant, c'est tous les soirs. Allez hop, le public est là, il faut repartir. On est vraiment des ouvriers, des artisans, quoi. Donc c'est une démarche qui est très différente.
On se retrouve dans un instant avec Bartabas. Nous sommes avec Bartabas au théâtre Zingaro. Bartabas qui publie un livre aux éditions Gallimard dans la collection blanche d'un cheval l'autre. Un livre dans lequel vous écrivez ce que nous vivons à Zingaro, on ne le voit pas dans les films, on ne le lit pas dans les livres. C'est si différent que ça, cet artisanat dont vous me parliez il y a un instant ?
Bah, disons que c'est surtout lié à la vie elle-même, c'est sans calcul, on ne cherche pas à comprendre, j'ai dit aussi.
Mais c'est pas des rôles, hein, dites-vous.
Voilà, on n'est pas là pour jouer un rôle, on joue notre propre vie et celle des chevaux d'ailleurs, c'est-à-dire que on vit notre métier comme des artisans plus que le sentiment de faire une œuvre.
Là, on est devant
devant l'entrée du théâtre. Alors ça, c'est quelque chose que les spectateurs ne voient pas souvent parce que souvent le grand pont-levis qui est en haut de l'escalier est levé quand les spectateurs rentrent et c'est une fresque d'Ernest Pignon-Ernest qui me représente sous mon cheval fétiche Zingaro, assis entre ses jambes. Et comme le veut Ernest Pignon-Ernest, c'est ce qui est sa marque de fabrique, l'œuvre est en train de vieillir avec le temps, avec le bois.
Il dessine, il affiche ses dessins sur des murs.
Voilà, il affiche les originaux sur des murs, ce que je trouve génial, parce que c'est lui qui a eu la vraie réponse.
C'est le père du street art.
Oui, et puis la vraie réponse par rapport à l'art contemporain et tous les excès qu'on connaît. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment peut-être l'artiste le plus honnête dans l'art contemporain qui existe en France. Et voilà, donc on a la chance d'avoir ce dessin qu'on voit vieillir, qui est en train de... Le papier est en train de s'effriter, de gagner dessus, donc il y a un côté un peu
éphémère. Garo, ça veut dire Zigane ?
Ça veut dire Zigane en espagnol.
Et Bartabas, alors, Bartabas, ça vient d'où ? Bartabas le furieux, d'abord ? Ça, c'était du temps du Cirque à Ligre, non ?
Voilà, bah, ça vient de l'époque du Cirque à Ligre, justement, où on se donnait tous des surnoms. C'est peut-être même pas moi qui l'ai choisi, je m'en souviens plus.
Il n'y a pas d'origine.
Chacun avait... Il y a un peu Artaban, il y a un peu... Ça, il y a un peu Barabas, il y a un peu tout ça.
Il n'y a pas eu de Bartabas avant Bartabas.
Exactement. Puis c'était une manière aussi d'affirmer que, un peu comme le capitaine Fracasse, ou voilà, il y a une époque, faire du théâtre n'était pas forcément quelque chose de très bien vu. Je pense qu'il y avait plusieurs siècles. Je veux dire, on avait un nom de théâtre, parce qu'il ne faut jamais oublier que les comédiens n'étaient pas enterrés dans les cimetières. Hein. Donc c'était quelque chose d'assez. Être comédien, vivre sur les routes, vivre du théâtre, c'était quelque chose d'assez séditieux. On peut dire ça. Maintenant, c'est devenu plutôt à la mode. Et donc c'était une manière aussi d'affirmer que je n'existe qu'en tant que Bartabas Zingaro. Ma vie privée, mon truc n'a aucun intérêt, j'estime. Quoi.
On est donc dans les écuries. Il y a des box de part et d'autre autour de nous, bois, avec des grilles, deux rangées. Il y a des lustres au plafond. Les chevaux nous regardent. Ils peuvent se regarder entre eux aussi. Puisqu'il y a des grilles qui les
séparent. Très important. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un barn. C'est-à-dire que les chevaux, non seulement un accès entre eux pour pouvoir se regarder, mais aussi une fenêtre qui donne dehors. Et donc, ils sont en permanence en contact. Ils ne sont pas clos dans un box enfermé toute la journée. Pour moi, c'est très important. Socialement, ça leur permet d'avoir un autre rapport. Et puis surtout, toute la journée, il y a des gens qui circulent ici, dehors. Bon, là, il fait un peu froid, il y a du vent, on a fermé les fenêtres. Mais voilà, ils ont accès un peu à la vie de Zingaro. Ils sont au milieu de nous.
Et le public passe juste au-dessus.
Et en plus, ça sert aussi de loge, quelque part, puisque le public pénètre par au-dessus, aperçoit les chevaux, un peu comme un toril de taureaux dans les arènes, et pénètre par en haut dans la salle, et alors qu'au fond des écuries, dès qu'on ouvre, on rentre dans la salle. Donc ce sont aussi un peu des coulisses. Quoi.
Europe 1, 11h30, en balade avec Bartabas. Frédéric Taddeï.
Vous écrivez dans votre livre « Longtemps, mes cauchemars ont été faits de l'inquiétude de ne pouvoir les nourrir ». Vous parliez de vos chevaux, évidemment.
Oui, bien sûr. Bah, les débuts de Zingaro ont été quand même assez rocambolesques. Quoi. C'était un pari assez audacieux de pouvoir nourrir au départ une vingtaine de personnes avec le travail d'une dizaine de chevaux. Puis après, ça a grandi petit à petit. Mais c'est vrai que c'était la démerde, quoi, comme on dit. Donc déjà, il fallait se débrouiller pour manger soi-même. Et en plus, d'abord, avant tout, nourrir ses chevaux et les soigner. Quoi. C'était pas quelque chose de gagné d'avance.
Leur nom écrit...
Oui, il y a leur nom.
Estocade.
Nouveau, il y a les anciens noms qui sont restés, qu'on a laissés.
Posada.
Les premiers chevaux qui ont habité là, parce que depuis, il y en a eu d'autres. Vous voyez, il y a Lautrec qui a quitté Zingaro il y a longtemps maintenant. Et il y a un autre. Donc, on a gardé le. J'aime bien que les noms des, on va dire, des sociétaires originaux restent sur les portes.
Mais vous dressez d'ailleurs la liste à la fin de votre livre, et vous avez l'air de dire que vous les comptez. Tous les chevaux que vous avez eus pour vous endormir.
C'est comme les moutons, il y en a eu tellement.
Vous vous souvenez du nom de chacun ?
Qu'à la fin, on s'endort, bien sûr, oui.
Angelo.
Voilà, et puis aussi les écuries, pour moi, c'est un lieu où souvent je viens la nuit ici, comme je suis un petit peu insomniaque, et je dis souvent, les box, c'est un peu des confessionnals. Quoi. C'est-à-dire, si on sait observer les chevaux la nuit, on entend des choses, on voit des choses que, assez extraordinaires. Quoi. Mais bon, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de temps, il faut se taire, écouter. Voilà, on entend les chevaux rêver, par exemple. Il y a des chevaux qui rêvent, c'est très étonnant, quoi. Et ils rêvent au niveau sonore, on les voit bouger, ils sont couchés, on les voit bouger, on voit qu'ils rêvent.
Vous racontez une scène très émouvante. Vous arrivez ici un soir et vous voyez l'un de vos chevaux qui est en train de pousser. Ouais. Du fourrage.
C'était le box là-bas, oui, c'était Chaparro qui était l'avant-dernier, le deuxième box. Et dans le premier box, il y avait un cheval qu'on avait. Bon, pour les gens qui connaissent pas, les chevaux normalement sont sur la paille. Ça, c'est un cheval qui dévorait toute sa paille. Et donc, on l'avait mis sur des copeaux de bois. Donc, il était interdit de paille, on va dire, de litière de paille. Et la nuit, donc une fois que j'étais après longtemps, je me suis aperçu que son voisin, Chaparro, lui passait de sa propre paille par les barreaux pour lui donner quoi. Alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que c'est pas seulement, non seulement il avait senti chez l'autre ce besoin de glucose, je ne sais pas. Donc déjà, il y a une espèce de communication, je dis souvent, qui est au-delà des mots. Hein. Et en plus, il le faisait la nuit. C'est-à-dire qu'il avait la notion de l'interdit. Quoi. Il le faisait quand il n'y avait personne pour regarder. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a... Ça a l'air de rien comme ça, mais je peux vous dire qu'il vous fait drôlement réfléchir sur l'animalité, sur le... Vous savez, observer les chevaux, pour moi, c'est une de mes passions aussi maintenant. Hein. C'est quand même découvrir, voir le cheval s'humaniser, mais pas s'humaniser comme serait un animal domestique qui cherche un chat ou un chien qui va singer vos comportements, parce que le cheval n'est pas un animal domestique. C'est-à-dire que voilà, il a sa propre vie, son propre rythme, et c'est nous qui sommes à son rythme. C'est pas le contraire. Alors qu'en général, les animaux domestiques se mettent au rythme un peu de l'homme, quoi. Et quand je dis le voir s'humaniser, c'est le voir vraiment peut-être découvrir le mouvement qui fut le nôtre à l'origine, c'est-à-dire le mouvement qui nous a permis de devenir humain, quoi. Et à travers le travail, la réflexion du travail, le comportement des chevaux, mais voilà, c'est pas quelque chose qui s'observe en deux minutes. À travers le travail, je dis bien, c'est pas juste observer une panthère dans la montagne, hein. C'est vraiment communiquer avec lui, lui apprendre quelque chose. Et à travers ça, tu découvres que le cheval est en train peut-être, voilà, de commencer le chemin que nous, on a parcouru il y a des siècles et des siècles pour devenir humain. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et des choses comme on vient d'écrire dans l'écurie, ça t'interroge parce que tu te dis que peut-être les chevaux ont un moyen de communication et ressentent des choses que nous ne sommes plus capables de ressentir maintenant.
Eh bien, il y a une chanson qui a été écrite en hommage aux chevaux du théâtre Zingaro. C'est Mano Solo qui a écrit Les chevaux d'Aubervilliers. On va l'écouter.
Europe 1, en balade avec Bartabas. Frédéric Taddeï.
Les chevaux d'Aubervilliers ont rendu l'âme cavalière. Les chevaux juste là derrière le cimetière répondent à mes prières. Un cabanon au milieu du campement, juste comme une maison d'enfant, résonne d'une course de nos cœurs battants. Et dans un galop apaisant ondule la marche des sentiments. Et si la caravane s'en va, je m'en vais avec elle. Et c'est mon chien qui aboie, car lui aussi l'a trouvée si belle. La pluie sur le haut vent cataclope. Quand à l'abri on se surprend à aimer la vie. Les chevaux d'Aubervilliers ne battent pas leur fer sur le pavé, mais forgent en moi une vérité, celle que la chance ne m'a jamais quittée. Et si la caravane s'en va, je m'en vais avec elle. Et c'est mon chien qui aboie, car lui aussi l'a trouvé si belle. Les cris d'hier sont la crinière à laquelle s'accroche une écuyère en or. Les chevaux d'Aubervilliers galopent dans mon cœur. si la caravane s'en va. Je m'en vais avec elle, et c'est mon chien qui aboie, car lui aussi la trouve si belle.
C'était Les Chevaux d'Aubervilliers, écrit, composé, interprété par Mano Solo, qui était le compagnon d'une écuyère du théâtre Zingaro à cette époque. On se retrouve dans un instant avec Bartabas. Nous entrons maintenant sur la piste. Là, c'est le parcours des chevaux hein, qu'on est en train d'emprunter.
L'entrée des artistes.
L'entrée des artistes. On est dans la cathédrale, on peut dire ça comme ça.
Oui, c'est une cathédrale de bois qui est entre le marché couvert, la ferme de l'Est et la cathédrale. Voilà, parce qu'il y a un transept, ça fait une croix. Enfin,
c'est rond, la piste fait quoi 15 mètres de diamètre.
Là, elle fait 20 mètres. Là,
20 mètres.
C'est une disposition qu'on vient d'installer pour reprendre un spectacle que j'avais créé il y a 25 ans, qui s'appelait Triptyque, et c'est le Sacre du Printemps à Symphonie des Psaumes. Et là, je vais le reprendre au mois d'avril avec le Parc de la Villette. On va le reprendre avec l'Académie de Versailles. Donc, c'est un spectacle qui va être sous le signe de la transmission, puisque je vais transmettre une chorégraphie qu'on a créée il y a une vingtaine d'années à des jeunes cavalières. Les danseurs, qui étaient des danseurs de Caralipayat indien, on va le transmettre à des danseurs contemporains cubains. Donc ça va être à tous les niveaux, ça va être intéressant.
Je suis souvent venu ici assister à des spectacles. C'est la première fois que je suis sur la piste. J'avais toujours l'impression, en étant parmi les spectateurs, que la piste était un endroit dangereux, que si on y tombait, ça m'a toujours fait la même impression que quand je vois des fauves.
Là, en plus, c'est comme une espèce de trou, hein, puisque là, oui. c'est un peu l'idée. Mais il y a eu tellement de... Vous savez, c'est une boîte vide, le théâtre. Et à chaque spectacle, je réinterroge le rapport scène-salle. C'est-à-dire qu'il y a eu des spectacles avec les spectateurs même au centre, qui tournaient dans Darshan.
Oui, je me souviens
voilà,
d'Arshan.
Il y a eu Calacas, où il y avait deux pistes. Une piste en l'air, où les chevaux tournaient donc au-dessus de vous. Et en bas aussi. Enfin voilà, à chaque fois, la disposition est la même. Là, on est plutôt, effectivement, dans un grand cratère. Quoi, au bord d'un cratère où on pourrait effectivement tomber. Quoi.
Oui, et de ne pas remonter surtout. C'est la question que ça donne. Vous êtes un des rares artistes à avoir inventé votre art. Ce n'est pas donné à tout le monde. On invente comme ça de partir de rien. Si, de l'art équestre, bien sûr, mais en y ajoutant de la musique, de la danse, de la comédie parfois, oui. Ça en a fait tout autre chose. Plus rien à voir avec ce que les Grecs faisaient.
C'est sûr. C'est sûr, mais enfin bon, c'est pas, j'ai jamais fait un peu consciemment, on va dire, c'est une réalité maintenant, mais j'entends beaucoup dire ça, mais faut bien comprendre que l'aventure Zingaro, ça a été d'abord une aventure humaine de quelques potes qui sont partis sur la route avec une seule philosophie de dire, au lieu d'apprendre dans une école et ensuite d'attendre qu'on nous appelle, on va apprendre en le faisant sur le tas, on va vivre d'abord et apprendre en faisant. C'était ça la philosophie de départ, quoi. Et c'est vrai que spectacle après spectacle, on a creusé, la vie nous a cabossé, c'est-à-dire que très vite je me suis aperçu qu'il fallait se recentrer autour d'une discipline commune si tu veux durer. C'est-à-dire qu'en fait, aussi bien pote soit-il, mais un trapéziste, un jongleur et un dresseur de rats et de chevaux n'avaient pas, à part déconner ensemble et vivre,
ça,
comme un groupe
du cirque
de rock,
d'Aligre, hein.
Voilà, n'avaient pas grand-chose à faire si tu veux vraiment durer sur une vie. Parce qu'un groupe de rock, c'est pas pareil, ils jouent chacun un instrument, mais ils font de la musique. Voilà, donc là, c'est un peu particulier. Donc l'idée, c'était de dire, bon, il faut qu'on se regroupe autour d'une discipline, d'une passion, même si elle peut se montrer à différentes techniques, mais toujours autour du cheval et de la musique, qui étaient les deux aspects. Voilà, et de là est né le théâtre équestre, on va dire.
Est-ce que le dresseur de rats a eu de l'influence sur le futur dresseur de chevaux ?
Ah ben, bien sûr, d'ailleurs, il a participé au premier spectacle de Zingaro en tant que voltigeur, il s'est mis aux chevaux. Ensuite, il a choisi sa propre voie, quoi. Mais voilà, donc c'est pas un projet, c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit, et spectacle après spectacle, c'est vrai qu'on a découvert nous-mêmes les voies qui s'ouvraient, les possibilités. Quoi. Alors, ce qui est vrai, c'est que si on m'avait dit, il y a par exemple 30 ans, tu vas chorégraphier le Sacre du Printemps à Symphonie des Psaumes avec des chevaux, j'aurais dit non, c'est pas possible. Quoi. Et petit à petit, c'est devenu possible par le travail. Parce qu'on a, voilà. Et c'est intéressant comme démarche artistique, parce que plus que le fait d'avoir créé une forme, c'est que je pense que Zingaro a grossi et a grandi avec son public. C'est-à-dire qu'au début, les premiers cabarets qui étaient un peu sauvages, bon, les gens se demandaient, mais c'est quoi ce truc-là, quoi? C'est ni du cirque, ni du cabaret, ni du théâtre. Voilà. Et nous-mêmes, on venait pas du tout de famille de cirque, ni de on venait d'aucune chapelle, j'allais dire d'aucune école, quoi. Et petit à petit, une confiance s'est établie et le public s'est formé en même temps que nous aussi, on se formait dans notre art, on grandissait. Et on a grandi ensemble, aussi bien en France que dans le monde entier. Et ça, c'est très, je trouve que ça a créé un rapport avec le public et peut-être, c'est peut-être ça qui est unique dans l'aventure Zingaro, je pense.
On marche sur quoi, là?
Alors là, on marche sur un sol. Je suis un passionné de la matière, moi, des sols. Donc, cherche toujours des sols d'une couleur différente. Le précédent, c'était tout noir. Et là, c'est une espèce de peau solane très fine. C'est le sable qui sert à faire les fosses septiques et qui est de couleur rouge.
Oui, il est beau, hein.
Et donc, ça fait un sol ocre, comme ça, qui est assez doux, qui permet d'enlever le bruit, le son. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on n'entende pas le son des pas des chevaux. Parce que...
Vous montez 4 heures tous les jours, toujours?
Ça dépend. Ben alors, en ce moment, je viens de mettre le Caravage à la retraite. Là, ça y est, il est parti au pré. Donc,
qui est devenu célèbre, voilà, comme nombre d'entre eux.
Qui était un peu mon Stradivarius, voilà, qui vient de partir à l'âge de 25 ans. Et là, il me reste ma dernière passion, c'est un grand cheval d'1m92 qui n'est pas là, parce qu'en ce moment, comme on est en travaux, il y a pas mal de mouvements à Zingaro. Donc, je l'ai mis à l'Académie de Versailles. Donc, je vais le monter là-bas un jour sur deux, pratiquement, puisque je suis à moitié là-bas, à moitié ici. Et c'est un cheval qui fait 1m92 et qui s'appelle Tsar, et qui est le cheval que je vais présenter. Je le travaille depuis plus de 2 ans maintenant, et je vais le présenter pour la première fois l'automne prochain dans le cadre du Festival d'automne, dans un petit spectacle solo qui va s'appeler Entretien silencieux.
Voilà. Celui que vous n'avez jamais monté, sauf une fois, par respect.
Ah, ça, c'est Zingaro.
C'est Zingaro, hein.
Oui, c'est Zingaro qui était le cheval, voilà, qui était un peu un cheval taureau, un cheval, auquel on était un peu partenaire, hein, puisqu'on, on jouait à se défier comme ça, spectacle après spectacle. C'était un rapport dominant-dominé entre l'un et l'autre. Et c'est un cheval que, j'ai toujours trouvé beaucoup plus beau en liberté que monter, qui n'avait pas. Et puis, un jour, j'ai décidé de le monter. Voilà, je sais pas ce qui m'a pris, ce qui n'était pas très prudent, d'ailleurs.
Oui.
Mais bon, faut savoir que ça faisait quand même déjà 10 ans que je le côtoyais tous les jours, donc il y avait une espèce de complicité.
Et qu'il était dans tous les spectacles.
Voilà, à pied, et ça a été l'objet d'un chapitre de mon livre, déjà. Et d'une espèce d'équipée un peu mémorable dans la nature, parce que c'était quelque chose qui m'a beaucoup frappé, parce que j'étais un peu inquiet, faut le dire, quand tu montes sur un, Donc, malgré tout le métier que j'ai, j'avais pas l'impression d'être un cavalier, mais plutôt un passager sur son dos, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai laissé faire un peu ce qu'il voulait, quoi. Et on est parti comme ça en Toscane, d'ailleurs, il y a eu une espèce de pour moi comme une espèce de révélation avec la nature qui était assez je pense avoir ressenti ce que doit ressentir un cheval en liberté dans la nature, quoi. Mais bon, et je ne l'ai fait qu'une fois, je me suis toujours interdit de le remonter.
On se retrouve dans un instant sur la piste du théâtre Zingaro avec Bartabas. Nous sommes toujours dans la pénombre sur ce sable rouge sur lequel nous marchons sans faire de bruit, au cœur du théâtre Zingaro, donc sur la piste. Autour de nous, il y a des bancs vides. Nous sommes avec Bartabas. À quel moment vous voudriez vivre, si vous en aviez la possibilité, Bartabas? Ça a été quand l'âge d'or de la fusion entre le cheval et l'homme pour vous?
Ah ben c'est sûr, quand je vois les vieilles gravures et photos, je me dis que j'aurais rêvé de vivre à l'époque où il n'y avait pas de voiture et où il y avait autant de chevaux dans la rue qu'il y a de voitures aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire le jour où on pouvait vraiment croiser tous les chevaux, où il y avait un vrai marché, d'ailleurs, parce que le cheval est devenu maintenant un peu un objet de caprice, on va dire, quoi, donc qui peut atteindre des prix exorbitants, alors qu'à l'époque il devait y avoir un Argus comme les voitures, tel cheval qui était attelé, qui faisait ça,
c'était
et
les
donc
maquignons.
Voilà, et donc pour moi ça aurait été fantastique, c'est-à-dire que tout d'un coup j'aurais eu sous les yeux un monde entier de chevaux avec qui partager quelque chose.
C'est fou de penser que pendant au fond des millénaires, on a été à la vitesse du cheval. On n'a jamais été plus vite qu'un cheval au galop. Et qu'on aille à Moscou, comme l'a fait Napoléon, c'était à la vitesse des chevaux de l'époque.
Bien sûr, ouais.
Et sans doute ne serait-il jamais allé à Moscou si on n'avait pas eu les chevaux très costauds, chevaux européens de l'époque qui tiraient des canons et qui avant cela avaient été montés par des types en armure. C'est quand même une particularité.
Je pense que peut-être l'humanité n'aurait pas grandi entre guillemets aussi vite si elle n'avait pas croisé le cheval. Bon, il y aurait, on ne sait pas l'histoire. Peut-être elle aurait croisé un autre moyen de. Mais effectivement, le cheval a été leur moyen de transport, de travail, de nourriture, de voyage et de guerre, quoi. Et c'est vrai que les peuples qui avaient accès au cheval avaient une supériorité sur les autres. Toutes les grandes conquêtes se sont faites grâce aux chevaux, hein.
Et c'est donc, très différent d'un pays à l'autre. Selon qu'on a le cheval européen très robuste, qui encore une fois peut aller jusqu'à Moscou en tirant des canons, ou cheval arabe plus petit, très rapide, mais qui lui bien tirera sûr. Pas de canon et ne pourra pas supporter un type avec une armure.
Bah, c'est-à-dire que le cheval dans le monde est obéi à deux vecteurs. L'un, l'espace géographique, exactement comme les gens. Les humains des montagnes n'ont pas le même physique que les humains des plaines, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le physique se fait en fonction de la géographie.
Adapté, quoi.
Déjà. Voilà. Et puis surtout que. Et puis la deuxième, c'est aussi les fabriquer par la main de l'homme. C'est-à-dire que l'homme l'a croisé, l'a fabriqué entre guillemets en fonction de ses besoins. Voilà, le boulonnais était fait d'une certaine manière parce qu'il devait être assez puissant pour tirer le poisson qui arrivait des mers de la côte normande jusqu'à Paris. Donc il fallait qu'il puisse tirer, mais assez vite pour pas que le poisson pourrisse. Donc il fallait qu'il soit capable de trotter, qu'il ait du sang, donc du pur sang arabe mélangé avec du cheval lourd, etc. Et toutes les races ont comme ça une histoire, quoi, en fonction de l'utilisation que l'homme en a fait. Et alors pareil pour les conquêtes dans le monde entier. Et ça va même beaucoup plus loin d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que le rapport au cheval est à j'allais dire a influencé aussi le rapport culturel, c'est-à-dire que par exemple le pur sang arabe dans tous les pays désertiques, l'animal ne peut pas survivre seul, donc il survit par la main de l'homme, parce que si vous mettez un cheval dans le désert il meurt, hein. Donc voilà, c'est parce que l'homme, et donc l'homme l'a créé à l'image qu'il se faisait de la beauté, du courage, de l'esthétique, d'où l'énorme quantité de poésie dans les pays arabes autour du cheval, la musique autour du cheval, etc. Alors que dans d'autres pays comme le Caucase ou l'Amérique centrale, les grands espaces, on va dire, le cheval vivait naturellement. Les Mustangs, etc. Donc il y a un côté l'utilisation du cheval, c'est fait de manière, on va dire, plus grossière, parce que voilà, il y avait des troupeaux à l'infini, on en prenait un, s'il était cassé, on en prenait un autre, etc. Donc ça a créé un autre rapport. Le cheval était vu comme un outil d'utilisation. Et ça a influencé aussi des choses dans la mentalité aussi du rapport que les civilisations ont au cheval et ont à l'art d'ailleurs.
The bright horses have broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire.
Ici, au théâtre Zingaro, enfin dans ce village que vous avez créé, j'ai l'impression que c'est le dernier endroit à Paris ou à côté de Paris, on est tout près de Paris ici, où ça sent encore comme Paris devait sentir il y a un peu plus d'un siècle, du temps justement où les chevaux étaient plus aussi nombreux que les voitures, c'est-à-dire ça sent le crottin.
Un peu. Non, mais c'est une odeur. Heureusement qu'il y a le boulevard Jean Jaurès et le fort d'à côté, comme ça, il n'y a pas de plainte des voisins. Parce que
mais c'est agréable.
Bien sûr que c'est agréable, mais maintenant, par les temps qui courent, vous savez, même l'odeur du crottin peut indisposer, ou même le son des sabots sur le pavé. Ouais, vous voyez,
non, on ne se rend pas compte à quel point.
Savoir que les chevaux de l'académie, quand ils vont dans le parc le matin, sont obligés de traverser dans la rue, et parfois, il y a des plaintes d'anciens préfets à la retraite qui peuvent mal dormir parce qu'ils entendent le son des sabots sur le pavé, ce qui est quand même un comble, parce que je pense que c'est assez beau de se faire réveiller par le son des sabots sur le pavé.
Oui, mais on n'a plus l'habitude. Je pense que c'est comme les Parisiens quand ils s'installent à la campagne et qu'ils sont réveillés par le coq.
Exactement. D'ailleurs, moi, j'aime bien beaucoup les coqs pour ça. Il y a un côté campagne. Ici, il y a un peu de volaille. Il y a toujours eu des oies, des dindons et un coq. Oui.
Ça se marie bien, les oies, les dindons et les chevaux?
Oui, de toute façon, tout se marie. Mais moi, j'aime bien. Oui, c'est notre petit côté campagne, on va dire, à Aubervilliers.
Il y a cette chanson Chevaux de toujours, chantée par Jeanne Moreau, vous la connaissez?
Non.
Je vais vous la faire connaître.
Avec plaisir.
Chevaux, chevaux, pavés, sabots, pavés. Sabots glaisés, sabots, chevaux et routes. Chevaux et nuits, aux grands chevaux levés. À l'horizon, dans les soleils qu'ils broutent. J'ai des chevaux qui traversent mes flammes. Foulant ce feu comme un herbage vert. J'ai des rumeurs de chevaux dans mes drames. Tout un arroi de galops et de fer. Chevaux toujours, l'aurore est un cheval qui s'ébroue en chasse au loin les corneilles. J'ai des chevaux pour émir tout mon mal. et des poulains où mes amours s'éveillent. Faire un destin, mes doigts dans les crinières, et respirer sueur, paille et fougère, l'arôme noir des profondes litières, comme l'odeur des âges légendaires. Sceptres et cœurs, triomphes et famines, rougeuses adieux portés sur des juments, je vous contemple et vois qu'éperdument fulgure aux cieux la race chevaline.
C'était Chevaux de toujours, chanté par Jeanne Moreau. Nous sommes avec Bartabas au Théâtre Zingaro. On s'y retrouve tout de suite.
Europe 1, en balade avec Bartabas. Frédéric Taddeï.
Retour dans la cour avec Bartabas, dans la cour du village. Des caravanes à droite.
Sur la place du village, c'est là où il y a le feu normalement le soir,
oui,
quand les spectateurs sortent du spectacle.
Il y a toujours un feu à cet endroit-là. C'est toujours bizarre, se dit-on, de vivre là où on travaille. Mais vous allez me dire que vous ne travaillez pas.
Exactement. Bah, disons que j'ai la chance de vivre de ma passion surtout. Donc, pour moi, chaque jour est une bénédiction pour ça, même si c'est beaucoup de travail. Mais bon, je l'ai choisi, hein.
Oui, mais on se dit, les autres aussi vivent ici, et eux, ils vivent avec leur patron, 24 heures sur 24, ils l'ont sur le dos.
Oui, si on veut, bien qu'on a appris à vivre ensemble, dans la mesure où c'est pas une communauté, Zingaro. Moi, j'appelle ça une tribu, parce que je trouve ça assez juste. C'est-à-dire, ça serait comme un village. C'est-à-dire, oui, effectivement, on se côtoie, on habite côte à côte, mais chacun a sa vie, ses enfants, sa famille, et on sait se préserver. Ça, on mange rarement ensemble, par exemple. C'est-à-dire, tout le temps autour de l'action artistique, du travail, donc à travers son cheval, qui est quand même un travail assez solitaire, hein. C'est-à-dire sortir son cheval tous les matins, c'est quelque chose d'assez personnel. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dirige. Voilà, chacun. Donc, et puis le soir, on se retrouve autour du spectacle. Donc c'est l'acte qui nous unit. Mais sinon, on ne s'use pas dans le rapport quotidien. Les gens sont assez étonnés. Je me rappelle pendant très longtemps des journalistes. À une époque, c'était la grande mode faire 24 heures avec. Donc ils me suivaient du matin au soir. Je me rappellerai toujours un journaliste, le soir il a dit, mais en fait vous n'êtes pas adressé la parole de la journée. J'ai dit non, on n'a même pas besoin de se dire bonjour tous les matins, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble, on ne va pas faire bonjour coco, comment vas-tu, comme quelqu'un qui va au boulot. Quoi. Et donc c'est vrai qu'un regard suffit, on se connaît tellement, comme avec les chevaux, hein. C'est vrai qu'on devient un peu bestial peut-être, je ne sais pas.
Et ça doit être dur après de retourner à la vie normale pour ceux qui quittent le théâtre Zingaro.
Je pense que c'est très dur parce que pour une raison très simple, c'est que quelque part, Zingaro, bon, c'est vrai que ça te prend tout ton temps. Moi, j'ai souvent les chevaux ont dévoré ma vie aussi, hein, je veux dire, parce que voilà, c'est très exigeant au niveau temps. Mais on est quand même protégé ici. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'en va de Zingaro, qui a vécu pendant 20 ans, ne sait même pas ce que c'est que ranger ses poubelles devant le voisin, ne pas garer sa voiture devant des trucs quotidiens, je veux dire, de la vie de tous les jours qu'on ne connaît pas, nous, quoi. Donc c'est vrai que souvent j'ai des retours comme ça, des gens qui me disent qu'il faut qu'ils réapprennent à vivre après, quoi.
Quand vous êtes parti à New York, à Hong Kong, vous avez emporté le chapiteau, c'est un chapiteau gigantesque, hein, qui est là. Et ça change quoi quand tout à coup vous vivez? Parfois vous êtes resté 2-3 mois. Hein, vous
pensez... Toujours, oui. À chaque fois qu'on allait dans une ville, ne serait-ce que, on restait toujours 90 jours, qui était le maximum de l'importation temporaire des chevaux, sinon on n'aurait plus le droit de rentrer après. Ouais. Donc effectivement, c'est à chaque fois. Mais bon, j'allais dire que tu sois planté à Manhattan, enfin à Tokyo c'est particulier, parce qu'ils ont reconstruit un théâtre de 2000 places que pour nous. Donc là, on était dans un lieu, c'était assez incroyable, qu'ils ont détruit, qu'ils ont reconstruit 3 ans après quand on est revenu avec le spectacle suivant. Mais à New York, on était avec notre propre chapiteau. Donc on peut dire, quand tu es à l'intérieur de la toile, que tu sois à Brest, à Concarneau ou à New York, c'est un peu la même chose, hein, on va dire. Tu te rends pas vraiment compte. D'ailleurs, moi, je me suis pas rendu compte vraiment de ce qu'on a vécu à New York. Ça a été quelque chose d'assez maintenant, je m'en suis rendu compte évidemment, mais sur le moment, on s'en rend pas compte. Nous, on est pris dans un artisanat, un travail de tous les jours, résoudre les problèmes, faire notre spectacle, et on ne s'en rend pas compte vraiment du regard des gens, quoi. On s'en rend compte à l'extérieur quand tout d'un coup les gens nous disent, mais vous savez que les places au marché noir se vendent à plus de 700 euros.
Et même quand vous racontez d'un cheval l'autre, vous racontez comment les stars hollywoodiennes viennent toutes faire la queue pour voir Zingaro, le cheval.
Bien sûr, personne ne pouvait rentrer parce que les chevaux étaient en quarantaine évidemment.
Mais donc, Zingaro par exemple, qui est un cheval que au départ qui tirait un corbillard en Espagne, en Estrémadour, non, je crois.
Bah, c'est-à-dire que c'est un cheval que j'ai acheté tout à un an et qui a connu le début du Cirque Aligre,
qui a fini par faire la couverture des magazines, qui a maintenant une page Wikipédia.
Wikipédia à son nom, et il y avait les stars de cinéma américaine qui voulaient toutes le voir.
Oui, oui, bah,
c'est des destins spéciaux.
Oui, mais bon, ça c'est pas. Si, le seul truc que je pourrais dire qui est assez drôle, c'est que quand Kevin Costner ou Robert Redford viennent te voir à New York, après qu'ils disent moi j'aime beaucoup les chevaux aussi, tu leur dis tu penses à Noiret ou à machin qui a 2-3 chevaux quoi. L'autre il se dit moi j'ai un ranch avec 500 chevaux quoi. Il dit bon ok. L'échelle est pas tout à fait la même, mais bon voilà, ça reste. Mais bon, encore une fois, je dis souvent, faut bien comprendre ça, que notre vie elle est tellement tournée sur notre artisanat, notre rapport au cheval, qu'on est quelque part imperméable à la notion de entre guillemets de succès, et qui maintenant avec le temps je m'en suis rendu compte que les chevaux m'ont beaucoup protégé quoi. D'abord, il t'amène une énorme humilité parce que tu vois que tous les matins, il faut remettre.
Donc, on ne peut pas sortir le soir.
Voilà, on peut pas. Exactement, il faut être là le matin et le cheval ne lui comprendrait pas si tu as la tête dans le cul le matin parce que voilà.
Tu étais avec Robert Redford.
Voilà, il dirait, mais qu'est-ce qu'il a celui-là, tu vois. Donc, c'est important. Donc, ça m'a beaucoup. Ça t'impose, par exemple, une rigueur de vie, même physiquement. Hein. Moi, je dis souvent, moi, par exemple, je m'entraîne. Du coup, c'est pas esthétique, c'est parce que mon corps doit être prêt encore à 63 ans à recevoir des chevaux, quoi. Je dis bien recevoir. C'est-à-dire, le cheval, il a sa puissance, c'est un animal de 600 kilos qui est quand même assez violent, hein. Même si la beauté du travail avec les chevaux, c'est la douceur de sa violence, justement. Mais il faut être prêt à le recevoir dans son corps, parce que le corps, c'est par là que tu communiques avec l'animal, quoi. Enfin, moi, je dis que tu communiques par là, même pas par l'esprit, parce que l'esprit, c'est les mots. Voilà, donc c'est ton âme qui reçoit le cheval et qui mais elle passe par le corps, et le corps, il faut qu'il soit prêt à recevoir ça. Mais exactement comme un pianiste ou un violoniste, ça passe aussi par son corps, donc il est obligé de s'entraîner. Alors évidemment un danseur, mais ça c'est autre chose, c'est carrément son corps qui s'exprime. Mais voilà, c'est quand même le vecteur passe par le corps, quoi. Donc ça aussi, les chevaux m'ont obligé à un certain rythme de vie, entre guillemets, c'est la mode maintenant de dire une espèce d'hygiène de vie, même si j'aime pas ce mot-là, mais voilà, pour moi c'est une obligation, je veux dire, c'est pas.
Il y a un peu de vent là, il y a les lanternes qui balancent un peu.
Ouais, il fait froid.
On a l'impression d'être dans un décor de justement de western, un peu de ces villes qui ont été construites pour qu'on tourne des film à l'intérieur. Sauf que là, on ne tourne pas de film.
Voilà, il y a un côté village espagnol aussi à l'époque où tout était en sable. Et si on rentre là...
Ouais. Là, on va rentrer...
Là, on rentre dans ce qu'on appelle... ça peut être un peu le restaurant. C'est le lieu d'accueil dans lequel les spectateurs pénètrent quand ils arrivent. J'aime bien...
Moi, je l'ai connu, restaurant. Là, il n'y a plus de table. Mais
là, c'est le boxon parce qu'on vient de tourner. Donc, il y a tout le matériel qui est arrivé.
Attendez, on va laisser passer les informations. Et puis, on donne rendez-vous aux auditeurs juste après dans ce qui fut le restaurant et qui reste une espèce de bazar des mille et une nuits invraisemblable.
Europe 1, en balade avec Bartabas. Frédéric Tadéhi.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Bartabas au théâtre Zingaro, fort d'Aubervilliers, au nord de Paris. On est dans ce qui fut le restaurant. Moi, je l'ai connu restaurant.
Il va le redevenir dans quelques mois, d'ailleurs.
Il va le redevenir dès que le spectacle, ce sera en avril. Hein.
Voilà, dès qu'on va reprendre le Sacre du Printemps, la Symphonie des Psaumes de Stravinsky. Donc. Pendant un mois, et donc on va réouvrir. Là, c'est un peu le chantier, parce que comme on est en travaux, donc ça a servi pour entreposer un peu de toutes les choses. Mais on peut voir, voilà, sur les... En fait, le principe de ce restaurant, c'est que toutes les parties de costumes, de décors que je voulais garder de chaque spectacle depuis 35 ans, plutôt que de les ranger dans des malles et ne plus savoir ce qu'on a, j'ai dit, le mieux, c'est encore de les disposer dans la salle, et comme ça, au moins, on peut les voir. Si on veut même les réutiliser de temps en temps, on sait qu'elles sont là.
C'est au plafond, donc on peut en accumuler.
C'est devenu un incroyable...
Il y a des charrettes incroyables.
Donc il y a les charrettes de Batuta, là, qu'on voit, qui était le spectacle Zigane entièrement au galop. Si on reprend d'ici, c'est le cabaret avec le chariot des cloches qu'on avait fait fondre, au nom de Zingaro, puisque quand on les retrouvera ensevelis dans 5000 ans, on dira, qu'est-ce que c'est que ça, Zingaro? Il y avait des cloches, ça devait être une secte. Donc ça, c'était le cabaret équestre. Après, il y a eu l'opéra équestre, avec les costumes berbères et georgiens.
Là, il y a des mannequins en osier qui portent les costumes.
À côté, c'est Lungta, le spectacle avec les moines tibétains du monastère de Guto. Il y a Eclipse, le spectacle coréen et japonais. Au-dessus, il y avait le spectacle des anges avec les clowns musicaux. Calacas, tu sais, avec les charrettes.
Toutes les charrettes mexicaines avec des squelettes.
Voilà, Chimère, le spectacle avec les musiciens indiens derrière. Ouais. Enfin voilà, c'est une grotte d'Ali Baba, on peut dire aussi.
Exactement.
Europe 1, 11h, 12h30, en balade avec Bartabas. Frédéric Taddeï.
Pour nous, c'est aussi une manière de faire revivre pour les jeunes spectateurs qui arrivent à Zingaro. Comme une des spécificités du théâtre Zingaro, c'est qu'il n'a pas de répertoire. Donc on ne peut pas refaire exister un spectacle qui a été créé il y a 10 ou 15 ans.
Parce qu'il n'y a pas des chevaux.
Oui, exactement. Donc c'est aussi une manière de faire exister le passé aussi. Hein.
On peut regarder les films.
Voilà, on peut regarder les films. Je me suis attaché à filmer tous mes spectacles depuis 35 ans moi-même pour qu'il y ait un regard. Mais bon, ça ne sera jamais. On sait très bien que l'image ne sera jamais la même chose que la force du théâtre vivant.
L'Académie équestre de Versailles que vous avez créé en 2003, ben c'est justement la transmission. J'imagine que ça continuera après vous. Le théâtre Zingaro, en revanche.
Ah ben non, je pense qu'il s'éteindra avec nous. Vous savez, moi, j'ai pas de voilà. Pour moi, c'est une philosophie de vie. Hein. J'ai dit toujours le spectacle actuel du théâtre Zingaro représente là où on en est dans notre recherche, dans notre évolution avec les chevaux. Pour moi, c'est quelque chose de c'est une démarche que j'ai. Enfin, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire, d'ailleurs, Moi, je définis beaucoup les artistes comme ça. Il y a les artistes qui cherchent toute leur vie. Et puis, il y a ceux qui, à un moment donné, rencontrent le succès et se contentent de reproduire ce qui marche. Voilà, pour soit pour être tranquille, soit pour gagner beaucoup d'argent. Et moi, c'est ça. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est toujours la recherche avec mes chevaux. Et puis, surtout, d'écouter ce qu'ils ont à me dire. Le jour où ils n'auront plus rien à me dire, j'arrêterai. Et de toute façon, quand ça s'arrêtera dans la seconde, quoi. Parce que on ne peut pas faire exister les chorégraphies de Zingaro sans notre rapport au cheval.
Au départ, vous avez commencé dans la rue, ouais. Avec votre premier cheval d'ailleurs. Ça ne devait pas être facile hein, dans la rue de faire du... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, du cabaret.
On faisait beaucoup de parades. C'était les parades de Zingaro qui commençaient comme ça dans la rue, qui ont connu le Festival d'Avignon, etc., qui était assez scellé parce que c'était assez violent. Hein. C'était ce qu'on appelait la provocation amoureuse, quoi, hein, puisqu'on déboulait au grand galop sur la place de l'horloge, comme ça, au milieu des gens, avec un.
Les flics devaient pas être très contents.
Donc, non, les flics nous laissaient passer parce que, comme tous les motards en général, c'est un peu des cavaliers frustrés quand ils ont les bottes et tout ça, donc on était toujours bien potes avec eux. Puis en plus, on avait les cheveux courts, on jouait la crête de punk au milieu, donc ils aimaient bien ça.
Mais avant ça, vous étiez tout seul, il me semble, avec votre cheval. Vous en parlez dans votre livre, dans D'un cheval l'autre, où vous êtes, je crois que c'est avec le tout premier, et vous faites, vous avez peur de la police qui risque d'intervenir à tout moment.
Oui, non, c'était à l'époque du circadien, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur les routes, c'est-à-dire qu'on avait juste un camion dans lequel dormait le cheval. On était cinq, hein, c'est tout, et on n'avait pas d'installation. C'est pour ça, on est basé à Aubervilliers parce qu'il y a un manège, une écurie, donc il fallait mes lieux de travail entre guillemets d'entraînement. C'était des pelouses, ça pouvait même pas être des terrains vagues parce qu'il fallait quand même que ce soit plat et bien régulier pour le cheval. Donc c'était des terrains de boules. Des pelouses municipales, voilà, donc j'avais toute une technique où je sortais mon cheval du camion, je commençais à travailler. Donc au début, il y avait en général 2-3 personnes qui étaient admiratives, oh regarde le cheval, etc. Puis il y avait toujours un mec qui arrivait, qui disait, mais vous avez l'autorisation d'être ici? Et là, ça commençait à se gâter. Je savais que j'avais encore pour un quart d'heure et les flics arrivaient, il fallait partir tout de suite, quoi. Donc voilà, pendant longtemps, ça a été ça.
Vous avez aimé faire la manche?
Oui, beaucoup. Ça m'a beaucoup appris parce que je pense que c'est la base du théâtre, c'est-à-dire, enfin pour moi, ce qui caractérise un spectacle populaire, c'est vraiment ne pas faire de concessions sur ce que tu as envie de dire, mais te faire comprendre du public. C'est-à-dire que dans le spectacle vivant, tu ne peux pas être un poète maudit. Tu ne peux pas dire, moi je suis un génie, vous êtes tous des cons, comme peut le faire un peintre ou un écrivain éventuellement. Mais voilà, il faut que quelque chose passe. Et ça, c'est la rue qui me l'a appris. Parce que tu peux être le plus grand génie du monde, si les gens te regardent et se barrent avant de donner une pièce, c'est que tu as mal fait ton boulot. Donc il faut aussi t'arranger pour que les gens payent tout en montrant ce que tu veux montrer, quoi. Donc c'est toute une technique de battleur, ça me passionnait ça à l'époque. Moi je parle de l'époque où la manche était interdite dans les rues, hein,
oui.
À Saint-Germain, tout ça, où on commençait des trucs et hop, les flics arrivaient, fallait repartir en courant, etc. pour aller à un autre endroit et ainsi de suite. C'est pas le théâtre de rue, entre guillemets, culturel, là.
On fait une pause, on se retrouve juste après avec Bartabas.
Frédéric Taddeï, en balade avec Bartabas sur Europe 1.
Nous sommes dans le restaurant, musée et en ce moment débarras du théâtre Zingaro. On marche sur des tapis assez usés, mais toujours assez beaux. Hein.
Oui, ce qui est usé est toujours beau en général. Moi, j'aime bien ce qui est usé. C'est comme mes affaires, mes chaussures, j'aime bien les garder longtemps.
Dans votre livre, D'un cheval l'autre, vous décrivez avec vos 30 chevaux, au moins voyageant dans le cul d'un 747 haut comme un immeuble de 3 étages. Vous alliez à New York. C'était la première fois que Zingaro allait à New York. Ça devait être... Comment ils ressentent ça, les chevaux, quand ils sont dans un avion?
Déjà, ils ne savent pas qu'ils sont en l'air parce qu'ils ne regardent pas par le hublot, donc ils ne sont pas stressés. Il y a juste le décollage et l'atterrissage où il faut être un peu vigilant parce que l'avion s'incline. Quoi.
Ils sont dans des caisses. Hein,
Ils sont dans des bas-flancs, dans des caisses. Donc et surtout, on a accès à eux quoi, par groupe de 3. Donc
oui, ça, vous restez là. Hein.
Donc, nous, on voyageait avec les chevaux, une partie de l'équipe, et on devient un peu les hôtesses de l'air pour les chevaux. C'est-à-dire que le vol dure 12 heures pour aller à New York, par exemple, et donc on les nourrit. Et ça décontracte beaucoup. Moi, j'avais un petit peu peur en avion il y a très longtemps, et le fait de voyager avec les chevaux, puis en plus tu vas dans la cabine, tu t'aperçois que le pilote et le copilote sont en train de se faire prendre en photo avec les chevaux en bas dans le truc. Ils ont laissé le stagiaire qui est en train de lire une bande dessinée pendant que l'avion va tout seul, quoi. Donc ça rassure d'une certaine manière, quoi. Parce que, voilà, mais mais ça reste des souvenirs un peu magiques parce que on a vraiment l'impression de partager une aventure avec nos chevaux, quoi. On est dans la même galère, c'est le cas de le dire, quoi.
Est-ce que les publics sont différents aux États-Unis, en Asie, en Russie?
Je ne sais pas si les publics sont différents, mais je pense que dans l'histoire de Zingaro, souvent, il y a une ville fétiche où tout d'un coup, le spectacle a été beaucoup plus loin que ce qu'on pensait, quoi. Et pour souvent différentes raisons. Par exemple, Lungta, alors là, ça s'explique assez bien, qui était un spectacle avec des moines du monastère de Guto, des moines tibétains. On a été joué à Tokyo et jamais le spectacle n'a été reçu comme ça. C'est-à-dire que, bien sûr, dans les autres villes, dans les autres pays, ça marchait comme ça marche. C'était reçu un peu comme partout. Mais là, tu sentais que ça dépassait, quoi. Il y avait quelque chose de... Alors, évidemment, ça peut s'expliquer parce que les Japonais sont aussi bouddhistes. Donc, voilà, ils entendent quelque chose là-dedans, une résonance qui n'est pas forcément la... que peut comprendre un Européen. Mais quand on a joué Chimère, par exemple, c'était le spectacle indien à New York, ça a été vraiment quelque chose les gens n'en revenaient pas, quoi. Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, quoi. Et donc, pourquoi? Je pourrais même pas le dire. Alors, on peut dire parce que peut-être New York, voilà, c'est la plus grande ville européenne au monde, en fait, quoi. Donc, toutes ces cultures mélangées comme ça, tout d'un coup, voir le travail de Zingaro comme ça sur les a touchés beaucoup parce que moi, j'ai pas vraiment de raison, hein. Il y a eu Triptyque à Moscou. Alors là, ça s'explique aussi. C'est Stravinsky, Sacre du Printemps. Bon, voilà.
C'est
donc,
un spectacle que vous reprenez bientôt, là.
Voilà, exactement. Donc, c'est souvent, il y a des comme ça, dans mon souvenir, il y a souvent des villes fétiches, donc des pays, qui correspondent à un spectacle. Tout d'un coup,
pourquoi jamais Las Vegas?
Oh, parce que c'est pas du tout mon truc. Alors,
mais eux, ils adoraient, je suis sûr.
Ça, c'est une anecdote que je racontais souvent à l'époque où justement on jouait à New York. C'était vraiment à la Scorsese, quoi. C'est-à-dire tout un groupe d'avocats qui était arrivé avec des costumes argentés, là. Ils m'avaient invité dans un grand restaurant au-dessus de New York. Et ils voulaient, en fait, reconstruire le théâtre Zingaro à Las Vegas. Mais au rythme du théâtre du soleil, quoi. C'est-à-dire 2 spectacles par jour, 4 le week-end. Donc j'ai essayé de leur expliquer que ce qui leur avait plu dans ce spectacle, en l'occurrence Chimère, c'était justement la complicité avec un cheval qui n'était pas reproduisible. Il me regardait vraiment comme si j'étais le dernier des crétins en disant, mais il est idiot ce gars-là, on lui propose tout ce qu'il veut. Je dis, mais vous aurez plus d'assistants, vous aurez des doublures. Je dis, mais non, mais le temps que tu passes avec un cheval, c'est le temps que tu passes. Tu peux pas le donner à un assistant, tu peux pas, voilà, les chevaux ne sont pas... Ça, ils comprenaient pas. Donc ils m'ont pris pour un con, quoi, en disant, mais il est complètement crétin ce Français. Je veux dire, on lui propose un pont d'or et il refuse. Voilà.
D'ailleurs, dans votre livre, quand vous parlez d'un cheval, vous dites mon nouvel amant. Ça ne peut pas paraître.
Oui, bien sûr.
C'est à chaque fois, on a l'impression que c'est deux amants qui se devinent du regard.
Oui, mais vous savez, quand vous côtoyez un cheval pendant 20 ou 25 ans, ce qui est souvent le cas de mes chevaux, c'est tous les matins. Hein. Même avec des êtres humains, il n'y a pas beaucoup de gens avec qui vous avez un entretien silencieux tous les jours comme ça pendant 20 ans. Donc ça crée une sacrée complicité qui est
charnelle en plus.
Qui est complètement charnelle. Hein. C'est très particulier, hein, le rapport, encore une fois. Hein. C'est vraiment un langage du corps, mais qui t'amène à une philosophie. Vieillir avec un cheval, c'est aussi voir le cheval vieillir, qui en général vieillit plus vite que nous. Hein, je veux dire, donc c'est aussi prendre une écoute au corps du cheval différente. Moi, Horizon, qui est parti à la retraite, qui est mort maintenant, est parti à 30 ans. Je peux vous dire qu'à la fin, c'était de la gériatrie, quoi. Il fallait le manipuler avec comme du cristal, quoi. Mais c'est passionnant. parce que tu t'aperçois que toi-même dans ton propre corps, quand tu te lèves le matin, hop, tu fais pas un saut perdu en te levant, hein, t'as plus 20 ans quoi. Donc voilà, il faut le temps pour que le corps, donc il faut beaucoup d'écoute, beaucoup de patience, et ça t'apprend des choses. Il y a une philosophie de et par exemple ce cheval là c'est incroyable parce que il a fait toute sa vie ce qu'on appelle un piaffé, qui est un espèce de trot suspendu sur place, qui est un air assez difficile d'école, voilà, qu'il a exécuté qu'il pouvait faire pendant pas des heures mais pendant des minutes comme ça, qui était exceptionnel. Et bien avec là jusqu'à la fin il exécutait, mais avec beaucoup plus de douceur, de plus en plus. Au début, alors jeune, il le faisait avec beaucoup de violence, d'expressivité, et ensuite il le faisait avec douceur et profondeur. Et donc je me suis aperçu que le cheval, comme un yogi, a compris avec un certain âge, par le travail, la réflexion, de l'exercice, la répétition, etc., qu'il n'utilisait que ce qu'il avait besoin comme force pour exécuter le mouvement. Alors qu'il était tout raide, tout truc, une fois qu'il était assoupli, il arrivait à le faire de manière harmonieuse parce qu'il n'utilisait que ce qu'il avait besoin. Et ça, quand vous apercevez qu'un cheval a compris ça, là, vous dites, tiens, le cheval est en train de découvrir le chemin vers l'humanité, quoi.
Moi, ce qui m'amuse, c'est que la chanson la plus sexy, je trouve, qu'on ait écrite depuis au moins Je t'aime moi non plus, c'est, elle s'appelle Cheval de feu. C'est une chanson de Jeanne Chéral. Et la métaphore du cheval fonctionne assez bien, je trouve.
Viens par ici, cheval à fumant. Viens dans le giron de maman. Je t'attendais du bout des lèvres, allongé sur ma peau de chèvre. Approche un peu, cheval indocile. Approche voir ce beau missile. Il fait si chaud dans mon varech que je pourrais te cuire le steak. Viens fouiller le buisson joli. Viens lustrer les galets polis. Viens goûter la figue à la crème que je te gardais pour carême. Viens par ici, cheval fumant. Viens dans le giron de maman. À la lumière de mon tison, tu as des airs de grand bison. Approche un peu, cheval puissant. Prends le chemin le plus glissant. Entends-tu la clameur qui gronde? Entends-tu le désir du monde qui te supplie d'entrer vainqueur et de monter jusqu'à mon cœur?
C'était Cheval de Feu, interprété par Jeanne Chéral. On est avec Bartabas, toujours au milieu des souvenirs de tous les spectacles du Théâtre Zingaro, dont un, là, je vois un cochon pendu par les pattes arrière, sanguinolent. C'est mexicain, ça, non ?
Non, c'était Batuta. C'était Batuta pour les Ziganes, qui était tout au galop. Ouais.
Et dans votre livre, vous rappelez que vous avez rêvé à un moment d'être rejoneador, torero à cheval. Vous qui fondez dès qu'un cheval souffre ou un chien, je vous imagine pas tuer des taureaux.
Non, d'ailleurs je l'ai pas fait. Mais c'est vrai que ça a été une passion de jeunesse. Mais c'est-à-dire que ce qui m'a toujours passionné dans le rapport de la tauromachie à cheval avec taureau, c'est le rapport entre les deux animaux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'instinctif, encore une fois, là, qui existe entre les deux, où l'homme est quelque part exclu. Hein. D'ailleurs, les grands toreros à cheval te disent que leurs grands chevaux vedettes, quand ils savent pas trop comment aborder le taureau, ils laissent faire le cheval qui lui sait quoi. Donc c'est vraiment un jeu entre les deux animaux. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné, et l'expressivité du cheval quoi.
Et amener un taureau ici, au Théâtre Zingaro, pour recréer ce que vous n'avez pas pu vivre à l'époque, ça ne vous a pas traversé l'esprit ?
Non, mais je l'ai fait par métaphore, parce que Zingaro, c'était quelque part le cheval taureau, hein, puisque je m'amusais justement à le taurer, à le provoquer.
Le cheval appelé Zingaro. Ouais.
Voilà, donc c'est quelque part, j'ai retrouvé ça d'une autre manière. Ouais.
On se retrouve tout de suite avec Bartabas pour la fin de notre balade. Nous longeons des bâtiments, toujours en bois, avec Bartabas. Il y a des travaux ici, des lattes de bois disposées un peu partout.
Là, nous rentrons dans une grande période de travaux qui va durer plusieurs mois. Donc, on en profite pour retaper le théâtre. Donc là, c'est encore une écurie en bas qui, pour l'instant, n'est pas occupée. Voilà. Et puis à côté, il y a la salle de danse, l'exercice qu'on est en train de restaurer le plancher.
Eh oui.
Voilà.
Il y a des tableaux de peintures de chevaux sur les murs.
C'est des reproductions de Géricault en plus grand qui avaient servi pour mon film Mazepa il y a 25 ans.
Dans votre livre D'un cheval l'autre, vous écrivez que chez les chevaux, ce sont les oreilles. Les oreilles ne servent pas qu'à écouter, en fait. Ce sont les oreilles qui traduisent les sentiments, les humeurs, les pensées des chevaux. On aurait tendance à penser qu'un cheval, c'est pas un acteur très expressif, mais au fond, si, quand on regarde ses oreilles, on voit toutes les émotions par lesquelles il passe.
Bien sûr, il faut apprendre à les lire, les chevaux. Hein. Donc, effectivement, les oreilles sont un des points importants d'expression, quoi. Et d'ailleurs, quand j'ai tourné Mazepa, le premier long-métrage que j'ai fait sur les chevaux, je me suis amusé à refaire un vocabulaire cinématographique pour les chevaux, donc ce qu'on appelle un plan rapproché pour l'humain, qui est moitié du front et en coupant presque le menton, qui est le plan vraiment très rapproché. Pour un cheval, ça ne marche pas. Il faut faire les oreilles, les yeux. Voilà, il faut pas besoin d'avoir le nez, quoi.
Ouais. C'est vrai que les chevaux, c'est certainement les animaux qu'on a le plus filmés au cinéma, hein, mais on en a même fait le héros d'un certain nombre de films.
Bien sûr.
Comment elle s'appelait, Flicka, je crois, la première. jusqu'à vos films à vous.
Disons que ça a été l'animal le plus décrit en poésie, je pense, le plus peint, et le plus, parce que c'était surtout le compagnon de l'homme pendant des siècles et des siècles. Le cheval a aidé l'homme à grandir. Et maintenant, on est peut-être au 21e siècle, le siècle où l'homme abandonne le cheval. Justement, le cheval n'est plus qu'un objet de loisirs, de sport, voilà, et de spectacle, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a quelques siècles.
Et ça reste un sujet littéraire d'un cheval l'autre. C'est un livre que vous avez vraiment écrit.
Oui, ça a été pour moi un peu une découverte, j'allais dire, parce que je me méfie toujours de la parole. Moi, j'ai tendance à, comme je suis assez timide, ça n'a pas l'air comme ça, mais donc les mots sortent, sont un peu sans contrôle, je trouve. Et pour moi, l'écriture, c'est la vraie parole. C'est-à-dire, c'est la parole qu'on peut vraiment ciseler, qu'on peut travailler, exactement comme on travaille un cheval, on travaille un mouvement, on le répète à nouveau. Donc ça a été un long travail d'écrire ce livre. Et puis surtout, j'avais vraiment envie de faire appel à des souvenirs de sensations, faire revivre vraiment le souvenir de ce que m'ont laissé certains chevaux à l'intérieur de moi, comment ils m'ont construit, quoi. Et donc, il a fallu, par exemple, j'ai fait deux retraites, j'ai dû partir de Zingaro, faire une vraie retraite, ce qui a causé des problèmes, d'ailleurs, dans la compagnie, parce que j'avais besoin déjà de mettre une distance entre les chevaux qui étaient encore là, et ceux que j'évoquais qui n'étaient plus là, pour les mettre un peu à égalité, puis même prendre un certain recul, vraiment ne pas les avoir sous les yeux, quoi. Donc c'était un travail assez, en même temps, passionnant, et auquel je me suis attaqué par ordre chronologique. C'était assez intéressant. C'est-à-dire que je suis revenu vraiment aux origines. Je me suis obligé à aller rechercher vraiment de manière très enfouie les souvenirs physiques, le rapport à l'os, j'allais dire vraiment avec l'animal, et de traiter cheval en entier par cheval. Mais parfois, des chevaux, c'était un échange de 20 ans, de 15 ans, de 20 ans. Donc ça faisait l'objet de plusieurs chapitres. Et ensuite, une fois que j'ai eu fini, j'ai fait comme un puzzle. C'est-à-dire que pour bien avoir la notion de temps, je les ai entremêlés. C'est-à-dire qu'on retrouve un cheval qui commence la première rencontre, puis on le retrouve 10 ans après, puis on le retrouve 15 ans après. Voilà, et qui sont comme des personnages qui s'entrecroiseraient comme ça dans un roman.
Europe 1, en balade avec Bartabas. Frédéric Taddeï.
Je me suis demandé pourquoi vous aviez assez peu utilisé, au fond, la parole dans vos spectacles pendant très longtemps. Il n'y avait pas un mot. Et je me suis dit, c'est parce que les chevaux ne comprendraient pas. Et que vous vouliez que le cheval comprenne le spectacle autant que les hommes, au fond.
Oui, déjà, il y a le rapport un peu universel, hein, puisqu'on a voyagé dans le monde entier. Donc, déjà, choisir une langue, c'est réduire, oui, c'est forcément, vrai. Déjà, premièrement. Et puis, voilà, c'est vrai que le rapport d'émotion qui est créé par le geste équestre et par la musique, je veux dire, est quelque chose qui, enfin, pour moi, je l'analyse comme ça, qui va vraiment d'abord aux tripes et ensuite qui renvoie une réflexion. Alors que la parole, c'est quelque chose qui s'adresse d'abord à l'intellect, et si elle est très forte, qui va aux tripes. Et c'est donc, enfin, moi, j'explique de manière assez brutale comme ça, assez grossière, mais qui, pour moi, c'est un cheminement qui n'est pas le même. Alors, j'ai utilisé dans des spectacles sur scène souvent de la poésie. C'est plus la musique des mots que la parole vraiment, quoi. Souvent des poèmes voyageurs, hein. Donc,
Le Triamond,
c'est Galen. Voilà, donc, dont je parle d'ailleurs dans le livre. Ça a été ça mon rapport un peu avec la parole dans mes spectacles. Mais là, je dirais presque que c'est la musique des mots, une fois de plus, quoi.
Il y a ce cheval, je crois que c'est Zygaro, encore une fois, qui, à un moment, s'assoit et reste immobile. Devant vous, vous êtes sidéré. C'est la première fois qu'il vient. Il s'est assis véritablement.
C'est pas ça. C'est que c'est quelque chose qui pouvait s'expliquer. C'est que j'étais en répétition d'éclipse. Donc le cheval était déjà avec moi depuis plus de 15 ans. Hein, je veux dire, donc il avait fait tous les spectacles, et à chaque fois dans nos prestations ensemble, voilà, il arrivait, je le faisais s'asseoir, je me glissais entre lui, donc il avait un peu magasiné ça. Et un jour, je le lâchais comme ça en liberté, en réfléchissant de qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans Eclipse, ce spectacle qui était en noir et blanc sur de la neige. Et le cheval, comme ça, sans que je fasse attention, gratte, se roule, ce que font tous les chevaux quand tu les lâches en liberté, et se redresse que des antérieurs, il reste assis, il me regarde comme ça pendant de longues minutes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il refaisait ce qu'il faisait régulièrement. Donc, c'est pas tellement magique. Ouais. Mais tout d'un coup, ça m'a apparu comme le cheval me dictait ce qu'il allait devoir, son solo. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai interprété dans Eclipse, c'est que chaque cavalier venait gratter, se roulait, s'asseyait, allait s'asseoir sur les bords. Et le cheval rentrait seul et faisait la même chose, restait assis. Et on éteignait au noir comme ça doucement.
Est-ce que ça a de l'humour, un cheval?
Ah, alors là, ça, il faudrait leur demander. C'est-à-dire que tu peux voir des chevaux qui ont plaisir à des choses, de là à rigoler, le terme de rigoler, j'ai rarement vu. Donc si l'humour... Il a de l'humour parce qu'il est joueur. Le cheval est joueur. Donc,
oui,
si
parfois on a l'impression qu'il sait se tourner lui-même en dérision. Ah,
comme je dis souvent, il n'y a que les animaux et les enfants qui jouent. Hein, sinon, les autres, on appelle ça des comédiens chez les humains.
Merci Bartabas de nous avoir emmenés en balade avec vous. Je rappelle que votre livre « D'un cheval l'autre » vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection Blanche, et que le théâtre Zygaro au Fort d'Aubervilliers rouvrira au public quand ?
Au mois d'avril.
Le spectacle s'intitulera
« Le sacre de Stravinsky ».
Merci de nous avoir suivis. Passez un bon dimanche et rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Europe 1, en balade avec Bartabas. Frédéric Taddeï.